Ben, le Burundi est depuis plusieurs mois dans la guerre civile, hein, puisque le comportement de ceux qui, justement, devraient être la source de la stabilité, la source de la paix sociale, sont la source des problèmes. Si les autorités publiques se comportent comme ils se comportent, c'est-à-dire la police, les services de renseignement, que ce soit qui enlève, torture, ça veut dire que le pays n'a pratiquement plus d'État. Donc, il y a un sérieux problème. Qu'est-ce qui peut arrêter la violence? Difficile à dire. Manifestement, l'armée peut encore jouer un rôle extrêmement positif, puisque son comportement jusque-là a été largement correct. Je ne vois que l'armée, en termes d'institution burundaise, sinon, ça veut dire que c'est la région qui s'implique, ça veut dire que c'est l'Afrique, que c'est la communauté internationale qui s'implique. Et même là, ce qui se passe vraiment est devenu tellement grave, a dépassé tellement toutes les limites. Le message du président du Sénat est une calamité. Il appelle pratiquement à l'extermination des gens, comme on l'avait vu dans le pays voisin en 1994. Je pense qu'il n'y a plus de limites du tout à ce que certains responsables d'État burundais sont en train de faire. C'est gravissime, même si, enfin, comme je disais, il n'y a plus que l'armée comme institution qui peut encore avoir de la crédibilité dans le pays.
L'Union africaine veut envoyer une mission d'enquête. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aider?
Les missions d'enquête ne vont pas arrêter les gens qui sont en train de tuer leurs frères et leurs sœurs. Ils ne vont pas empêcher les gens de continuer à torturer comme on le voit. Donc les missions d'enquête sont importantes certainement pour établir des faits, pour poursuivre les gens quand ce sera possible. Mais les missions d'enquête ne vont pas arrêter la folie qui semble guider certains responsables de l'État burundais aujourd'hui.
Ce lundi, le président Nkurunziza a encore lancé un autre ultimatum de 5 jours pour ceux qui s'attaquent à la police de remettre les armes. C'est un troisième ultimatum. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va arrêter ce qui se passe?
Vous savez, les gens qui ont pris les armes ne les prennent pas par plaisir. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire face à cette police-là, à certains éléments de cette police-là, à certains éléments des services de renseignement? Quand les gens enlèvent, torturent, tuent de manière aussi odieuse que ce qu'on voit depuis des mois, qu'est-ce que vous pouvez faire encore d'autre que de vous défendre? Ce n'est plus une police d'État, ce n'est plus une police nationale. C'est devenu un gang de criminels, c'est aussi simple que ça. Maintenant, contre ces gens, vous faites quoi? Vous leur confiez votre profil? C'est pas possible. Les gens ont pris les armes pour se défendre. Ce n'est pas un ultimatum qui leur fera changer d'avis.
Et il y a des gens qui se défendent. Est-ce qu'on peut dire que c'est la rébellion dont on a parlé depuis longtemps qui est déjà en action?
Il est déjà, c'est évident. La rébellion commence le jour où les gens ne reconnaissent plus les prérogatives des gens en uniforme comme représentants de l'État, parce que ceux-ci ne se comportent pas comme les représentants de l'État, mais que se comportent comme des criminels parmi tant d'autres criminels. Donc la rébellion est là depuis bien longtemps, c'est évident.
Est-ce qu'à voir comment ils opèrent sur le terrain, on peut dire qu'ils répondent à un chef ou à plusieurs chefs?
Écoute, je ne sais pas trop, mais on sait tout ce qu'il y a des personnalités qui, d'une façon ou d'une autre, se sont activées à mettre sur pied des formes de résistance. Donc, il est possible qu'il y ait plusieurs chefs, c'est tout à fait possible.
Hein. Innocent Mohsi, finalement, combien de temps ça doit prendre et comment remettre l'ordre?
Ben, le président de la République, qui est en exercice aujourd'hui, a une responsabilité énorme qui dépasse celle de n'importe qui d'autre pour arrêter tout cela. S'il décide d'arrêter tout cela de manière tout à fait sensée, ça peut vraiment s'arrêter, ça peut se désamorcer par un dialogue sérieux, franc, immédiat et sans détour avec tous les acteurs burundais. Si le choix c'est celui de penser prendre la déçue par la violence, ça ne s'arrêtera pas. On peut toujours gagner une bataille, on peut toujours tuer quelques personnes par-ci par-là. Mais si le système continue à être comme il est, c'est clair que ça ne pourra pas s'arrêter parce qu'il n'est pas possible, il n'y a pas de peuple sur cette terre qui puisse accepter certaines choses que font les agents de l'État sans se défendre, sans se rebeller. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, si la région, si l'Afrique, si le monde entier s'implique un peu plus vigoureusement, ça peut s'arrêter vite fait.
La genèse ou le fond de ce qui se passe, c'est le troisième mandat. Est-ce que vous pensez que le président peut stabiliser le pays alors qu'il n'est pas reconnu par ceux qui protestent?
Ce n'est pas tellement une histoire de troisième mandat. Si les gens s'en sont arrivés à ça, si ces gens ont tellement résisté, ce n'est pas tellement à cause du troisième mandat, c'est à cause de ce que symbolisait un troisième mandat, des pratiques qui étaient déjà en cours, que les gens espéraient voir se terminer avec le deuxième mandat du président Nkurunziza. Si le troisième mandat du président Nkurunziza signifie la perpétuation de ce que les gens avaient déjà vécu, c'est ça qui explique toute cette résistance et tout ce qui est arrivé après. Donc c'est moins une histoire de troisième mandat que de ce que signifie le fonctionnement de l'État encore prolongé par un troisième mandat. C'est plutôt de cela qu'il s'agit.